Donc, bonjour et rebonjour aux uns et aux autres, frères et sœurs. Nous allons aujourd'hui terminer l'étude de l'épître aux Galates. Donc, ce sera l'occasion de résumer un petit peu ce qui a été dit avant. Je tâcherai évidemment de rester dans les temps. Et le texte que nous allons regarder aujourd'hui, c'est dans Galates chapitre 6, verset 11 jusqu'à la fin, le verset 18. Donc, comme à chaque fois, alors désolé, j'ai un petit problème de voix, donc on va essayer de le surmonter. Comme à chaque fois, je vous propose une traduction littérale à partir du texte araméen, et ensuite on va commenter verset par verset ce que nous dit ce texte. Je vais aborder aujourd'hui quelques points, on va dire, un peu délicats, et qui font vraiment controverse dans certaines églises. Mais je n'insisterai pas lourdement. Mais par contre, je pense qu'il faut au moins les mentionner. Donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. Seigneur Jésus, tu es la parole de Dieu, tu es la parole vivante. Et si nous prononçons la lettre, et que tu ne l'accompagnes pas de ton esprit, alors tout ce que l'on fait est vain. Donc c'est d'abord sur toi qu'on veut compter, sur cette puissance de vie, qui est dans cette parole, et qui est également dans ton esprit. Amen.
Amen.
Donc à partir du verset 11. « Voyez ces choses-ci écrites. » Je vous les ai écrites de ma propre main. Ceux qui veulent se glorifier dans la chair, eux, ils vous contraignent à ce que vous soyez circoncis, mais seulement afin de ne pas être persécutés dans la croix ou par la croix du Messie. Car ceux qui sont circoncis ne gardent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin qu'ils se glorifient dans votre chair. Or pour moi, il n'y a pour moi pas sujet à me glorifier, sinon de la croix de notre Maître, Jésus le Messie, par qui l'âge présent, ou le monde présent, est crucifié pour moi, et moi crucifié pour lui. Car la circoncision n'est rien, ni l'incirconcision, mais la nouvelle création est tout. Et ceux qui approuvent cette voie, que la paix et la compassion soient sur vous, et sur l'Israël de Dieu. Désormais, qu'aucun ne me cause de la peine, car moi, je porte dans mon corps les marques de notre Maître Jésus. Que la grâce de notre Maître Jésus le Messie soit avec votre esprit, mes frères. Amen. Voilà le texte pour aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, c'est l'occasion de synthétiser un peu ce que Paul voulait dire aux Galates. Et surtout, on va commencer par cela, de préciser quelle était en fait la motivation de ces judaïsants qui voulaient absolument circoncire les Galates. Donc c'est un point qu'on va développer. Avant cela, Paul dit quelque chose d'assez étonnant, enfin curieux, moi ça attire mon attention. Ces choses citent, donc la lettre aux Galates, je vous les ai écrites de ma propre main. Et quand on lit un peu précisément les épîtres de Paul, on se rend compte qu'il avait sans doute un problème de vision. Par exemple, il conclut l'épître aux Romains au chapitre 16 en disant « Tertius se présente comme celui qui a écrit l'épître ». Ce n'est pas Paul qui a écrit l'épître aux Romains. Paul a dicté l'épître aux Romains, mais c'est un frère qui a dû l'écrire. Tiens. Dans 1 Corinthiens 16, Paul va donner les salutations, comme il est dit « Je vous salue de ma propre main ». Mais ça sous-entend que le reste encore, il l'a dicté. Mais il a fait l'effort d'écrire de sa propre main la salutation finale. On a la même chose dans Colossiens 4, donc je n'insiste pas, il met la conclusion par sa propre main. Et enfin, dans 2 Thessaloniciens 3, il dit « Voilà, c'est ma signature !» Comme pour dire « Voilà, cette lettre vient bien de moi, même si le reste, j'ai dû le dicter. » Et souvenez-vous, ça fait penser à la manière dont Paul a rencontré pour la première fois les Galates. Parce que qu'est-ce qu'il leur a dit dans Galates 4 ? Souvenez-vous qu'au départ, c'est à cause d'une infirmité de ma chair. Ça a été l'occasion pour nous rencontrer. Et on peut donc légitimement se demander si cette infirmité de la chair n'était pas reliée aux yeux, puisque dans le verset 15 du même chapitre 4, il dit « Vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner si vous l'aviez pu ». Voilà, il avait sans doute un problème de vue. Et ce problème de vue, quel était-il exactement, on ne sait pas. mais ça le maintenait dans l'infirmité et dans la faiblesse, à tel point qu'il devait dicter la plupart de ses épîtres. Et pour ma part, je fais le lien avec la manière dont le Seigneur a appelé Paul. Est-ce que vous vous souvenez où est-ce que Dieu l'a frappé? Quand il lui a apparu sur le chemin de Damas, à quel endroit est-ce que le Seigneur l'a frappé? Aux yeux. Le Seigneur a mis des écailles sur les yeux et pendant 3 jours, Paul était aveugle, à tel point qu'il avait besoin que quelqu'un le guide. Vous voyez? C'est une position d'humiliation, mais que Jésus fait de manière compatissante, évidemment. Mais il humilie Paul et il enferme. Il supprime toute distraction extérieure. Et pendant 3 jours, je pense que Paul à l'intérieur, mais ça a dû cogiter en se demandant mais qu'est-ce qui lui est arrivé. Lui qui avait combattu le Messie en persécutant l'Église, d'un seul coup le Messie lui apparaît. Vous vous rendez compte un peu le bouleversement intérieur. Voilà. Et Dieu donc l'a isolé pour qu'il ne soit plus distrait et que ça travaille à l'intérieur. Mais la vue, il avait certainement, je pense, un problème physique avec les yeux, qui est peut-être la conséquence du fait que Jésus l'a frappé à cet endroit-là au moment de la conversion. Mais il ne faut pas oublier que les yeux, c'est également la métaphore de 3 formes de lumière. D'abord, la lumière naturelle. J'ai besoin des yeux pour voir le soleil qui est dehors. Mais c'est également la lumière de l'intelligence. On dit l'intellect, l'intelligence, ça éclaire. Oui, mais de quelle lumière? Si le cœur n'est pas rempli de Dieu, cette intelligence, c'est l'intelligence des ténèbres. C'est une intelligence qui éloigne de Dieu. Donc l'intelligence, si elle est éclairée par l'esprit, ce qui sous-entend la 3e forme de lumière, la lumière de l'esprit, alors l'intelligence peut être utilisée. Sinon, c'est un instrument de ténèbres. Quelqu'un a prié tout à l'heure sur les mécréants, ceux qui ne croyaient pas en Dieu et rejetaient Dieu. Alors je fermais les yeux, je n'ai pas su qui a prié. Vous vous rappelez qui a prié? Voilà, merci. C'est exactement ça. La lumière sans l'Esprit de Dieu devient en fait ténèbres. C'est le paradoxe. Et donc peut-être que Dieu l'a frappé justement à l'endroit sensible. C'est-à-dire, c'était une métaphore pour dire, tu vois, toute ton intelligence, toute ta connaissance de la Torah, regarde où ça t'a mené. Ça t'a amené à me persécuter. Voilà où ça t'a amené. Donc oui, voilà, je ne vais pas développer ça, mais il y a tout un thème là qu'on pourrait développer. Et l'application parfaite de ça pour moi, c'est Jean 9. Quand l'aveugle naît, quand Jésus lui rend la vie, qu'est-ce que fait Jésus? Il le met entre les pattes des religieux. Allez, vas-y, maintenant débrouille-toi et sois pour eux, il ne le dit pas comme ça, mais ça revient à ça, sois pour eux un témoignage. Toi à qui j'ai rendu la vue, tu comprends maintenant beaucoup plus que tous ces érudits avec leurs connaissances théologiques. Vous voyez? Sommes-nous aveugles, nous aussi? C'est ce que les religieux vont dire à Jésus. Mais si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, parce que vous dites, nous voyons, à la lumière de la loi, c'est à cause de cela que votre péché demeure. Parce qu'ils ne viennent pas à la lumière de la vie qui est en Jésus, ils veulent juste la lumière de la connaissance dans la lettre. Et à cause de ça, leur péché demeure. Que ça soit une leçon pour nous. Il faut faire attention, la connaissance, elle est bonne si elle est révélée et si elle nous amène à Jésus, à la vie de Jésus. Sinon, en fait, ça nous enferme dans nos propres ténèbres. Et la lumière qui ne vient pas d'en haut, je vous le rappelle, c'est qu'elle vient d'en bas. Il ne faut pas oublier que le premier qui a chuté, c'est Lucifer. Et vous savez ce que veut dire Lucifer en latin? Lucifer. Alors pour ceux qui ont fait du latin, ferro, fers, ferre, tuli, latum. C'est le verbe qui veut dire porter. Donc c'est le porteur de lumière. C'est quand même étonnant que la créature la plus flamboyante que Dieu ait créée était le porteur de lumière. Et pourtant, dès qu'il s'est coupé de Dieu par rébellion, il est devenu un puits de ténèbres, tout en gardant son intelligence. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux ruses de Satan, comme le dit la parole. Il est hyper intelligent, mais il est complètement enfermé dans ses propres ténèbres. Donc voilà, ça fait penser à ça, vous voyez, juste pour inverser, cette métaphore de la lumière et le fait que, comme signe visible, Dieu ait frappé Paul au niveau des yeux. Et ça renvoie enfin, et je termine avec cela pour ce premier point, à évidemment 2 Corinthiens 12, où là encore étonnamment, et c'est un verset, je vous cite souvent, là encore étonnamment, il est question d'intelligence. À cause de l'excellence des révélations qui m'ont été faites, et afin que je n'enfle pas d'orgueil, Dieu a mis dans ma chair une écharde, un ange de Satan pour me souffleter. Et on peut se demander si cette écharde dans la chair ne concernait pas ses yeux. Peut-être que ses douleurs aux yeux lui provoquaient des migraines telles que ça humiliait son intelligence et qu'il avait besoin de la grâce de Dieu, ne serait-ce que pour exercer son ministère et transmettre l'enseignement du Seigneur, même si c'était au moyen d'un frère qui devrait prendre la plume à sa place. Vous voyez, à chaque fois, le Seigneur l'humilie pour le garder dans la faiblesse. Et peut-être que c'était le moyen que le Seigneur utilisait pour le garder dans la faiblesse. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Mais c'est pour comprendre également d'où Paul parle. Hein, parce qu'on dit les épîtres de Paul et on a l'impression parfois d'avoir un super-héros de la foi. Mais en fait, il parlait depuis une position de faiblesse. Voilà. Et ça, la faiblesse, c'est quelque chose que l'on n'aime pas. Et pourtant, c'est la condition indispensable pour que le Seigneur manifeste sa puissance. Je fais à nouveau allusion à 2 Corinthiens 12. Ma grâce te suffit, car ma puissance, voilà, elle s'accomplit dans la faiblesse. Le verbe accomplir. Voilà, il y a beaucoup de personnes dans le monde chrétien qui veulent manifester la puissance de Dieu, mais ils le font par la force et non pas dans la faiblesse. Dans leur force naturelle, leur force de caractère, leur charisme, leur volonté, leur énergie. Voilà, mais ils ne le font pas dans la faiblesse. Est-ce que nous connaissons notre propre faiblesse et est-ce que nous l'acceptons devant le Seigneur comme nécessaire à cause de l'orgueil de notre chair, sinon prend vite le dessus, est-ce que nous l'acceptons pour que le Seigneur puisse nous utiliser comme membre de son corps? Donc ça, c'est la première question que je pose. Ensuite, nous allons continuer. Et là, maintenant, nous allons sonder la motivation, en fait, des judaïsants. Pourquoi ils voulaient à ce point circoncire les Galates? Donc, ce sont les versets 12 et 13 que je vais lire ensemble, relire ensemble. Ceux qui veulent se glorifier dans la chair, là il parle des judaïsants, ils vous contraignent à ce que vous soyez circoncis afin de ne pas être persécutés dans la croix du Messie. Et là il y a une chose qui m'a frappé. Parce que naturellement, j'aurais pensé la chose suivante. Ceux qui veulent se glorifier dans la chair vous contraignent à ce que vous soyez circoncis afin que vous, Galates, ne soyez pas persécutés. Or là, les judaïsants disent non, afin que nous, judaïsants, nous ne soyons pas persécutés dans la croix du Messie. Ça m'a frappé. Est-ce que c'est ça la motivation des judaïsants? C'est eux qui ne voulaient pas être persécutés à cause de la croix du Messie, et pour éviter la persécution, ils forçaient les Galates à se circoncire. Mais qu'est-ce qu'ils craignaient, ces judaïsants? En fait, qu'est-ce qu'ils craignaient? Mais je pense que la réponse, elle est simple. Les judaïsants étaient dans une forme de compromis. Ils voulaient rester attachés à la synagogue. Ils voulaient rester avec les juifs qui, eux, ne reconnaissaient pas Jésus, les juifs incrédules. Mais ils savaient que s'ils voulaient rester attachés à la synagogue, il fallait donner des gages. Parce que eux, ces judaïsants, proclamaient également que Jésus est le Messie. Mais ils voulaient garder leurs rites, leurs traditions, et le contact avec la communauté juive, le judaïsme, la synagogue. Et donc pour cela, ils étaient prêts à annoncer l'évangile, puisqu'ils voulaient être chrétiens. Mais en voulant circoncire les Galates, ils renvoyaient le message à la synagogue. Non, mais on veut les ramener dans le giron du judaïsme. On veut en faire des prosélytes du judaïsme. Et défendre par là l'idée que le christianisme n'est qu'une branche du judaïsme, et que le christianisme n'est pas dangereux puisqu'il s'agit d'amener les païens à la circoncision et à la loi de Moïse. Vous voyez l'enjeu? Ils instrumentalisaient les Galates de telle manière à pouvoir proclamer la foi en Jésus, parce qu'ils venaient de Jérusalem, tout en donnant des gages à la communauté juive et à la synagogue de manière à ne pas être rejetés par le judaïsme. Parce qu'il faut bien comprendre à l'époque ce que ça signifiait. Être exclu de la communauté juive, c'était exclu socialement, être mis à mort socialement, être écarté, ne plus faire partie du peuple de Dieu, définition de l'ancienne alliance. Je reviendrai après sur la notion de peuple de Dieu. Et donc, oui, ils voulaient bien croire en Jésus, mais ils ne voulaient pas quitter la synagogue. Alors oui, ils voulaient bien annoncer l'évangile aux païens, mais à condition qu'ils se circoncisent pour pouvoir dire à la synagogue, en fait, nous faisons du prosélytisme. Nous travaillons avec vous, nous faisons la même chose que vous. Ils étaient dans un entre-deux. Et ça, c'est absolument frappant, parce que certains érudits qui ont étudié en particulier l'origine de l'islam voient dans l'origine de l'islam précisément ces milieux juifs, nazaréens et ébionites, qui d'un côté confessaient que Jésus était bien le Messie des Écritures, mais de l'autre voulaient garder leur judaïsme. Donc ils ont exclu la divinité de Jésus et ils sont arrivés à un message que l'on retrouve étonnamment aujourd'hui dans l'islam. Puisque d'un côté, on a bien la confession de Jésus, mais pas en tant que fils de Dieu. Et de l'autre côté, on a quand même un accent sur la loi qui ressemble bigrement au judaïsme. Voilà, donc moi je n'ai pas d'origine musulmane, donc je ne vais pas faire l'expert d'un domaine que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, il y a cette idée que l'islam est une forme de compromis, d'après certains érudits, entre le christianisme, on reconnaît que Jésus est un personnage hors du commun, mais en gardant un fort accent sur la loi qui est le propre du judaïsme. Voilà, je ne vais pas développer plus cela, mais on peut voir vraiment dans ces judaïsants ceux qui ont cherché un compromis. Et vous savez que dans la parole, l'église de la fin des temps, c'est-à-dire l'église, on peut voir dans l'église de Laodicée, cette image de l'église de la fin des temps qui est également dans le compromis. Jésus lui dit, tu n'es ni froide, c'est-à-dire païenne, ni bouillante, remplie de l'esprit, mais voilà que tu es tiède. Tu es dans un entre-deux. Et comme disait Tozer, que je crois également avoir déjà cité, Tozer disait, ils ont un peu de Dieu, mais pas tout. Et Dieu a un peu d'eux, mais pas tout. Et Tozer conclut, leur fin sera tragique. La fin sera tragique. Donc ça, c'est le compromis de Laodicée. C'est le compromis de notre temps. C'est le compromis de cette Église qui proclame et confesse Jésus, mais ne va pas jusqu'au bout de la démarche de repentance pour entrer dans la faiblesse dont j'ai parlé avant, afin que la vie de l'Esprit se manifeste. Parce qu'il y a une correspondance directe entre l'entrée dans la faiblesse, donc la perte des illusions quant à sa propre chair, en acceptant une bonne foi qu'elle est irréformable, et l'entrée dans la marche par l'esprit, en mettant cette chair de côté. Ces judaïsants étaient dans ce dilemme-là du compromis. Alors on peut dire, oh, les judaïsants, ils n'ont rien compris, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est de nous? Quand Jésus parle de Laodicée, il parle de nous, en fait, il parle de cette église de la fin des temps. Qu'est-ce qu'il en est pour nous? Que chacun, voilà, on doit s'examiner constamment devant Dieu pour voir si on ne serait pas en train d'essayer de jouer des deux côtés. Hein, un petit peu païen, un petit peu chrétien. Vous voyez? Au verset 13, ceux qui sont circoncis ne gardent pas la loi. Là, Paul, il est radical. Mais il l'avait déjà dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2 et 3. Oh, toi qui dis qu'il ne faut pas faire, ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas convoiter, tu convoites. Paul, dans le chapitre 2 et 3 de l'Épître aux Romains, montre que même les légalistes, on a beau essayer de se soumettre à la loi, en fait, on n'arrive pas à accomplir la loi. Donc Romains 2, 17 à 24, les Juifs se vantaient de la loi, mais ne la pratiquent pas. Le vol, l'idolâtrie, l'hypocrisie, la calomnie, la jalousie. Paul le dénonce, ça. Il dit, mais c'est ce qu'il va dire dans d'autres passages. La loi, plus on essaye d'y obéir, plus on active et on nourrit la chair. Car la puissance du péché, elle est dans la loi. Et dans Romains 3, versets 9 à 20, on ne va pas lire la liste, mais tous sont sous le péché, juifs et grecs, et la loi condamne plutôt qu'elle ne justifie. Donc quand Paul dit, même de ces judaïsants-là qui avaient un pied d'un côté, un pied de l'autre, il dit, non, mais les circoncis ne gardent pas la loi. S'ils ne gardent pas la loi, pourquoi veulent-ils vous forcer, vous Galates, à être circoncis? ça va vous avantager de quelle manière? Voyez? Mais ils veulent que vous soyez circoncis afin qu'ils se glorifient dans votre chair. Et là encore, je me suis demandé, mais ça veut dire quoi ça? Ils veulent que vous soyez circoncis afin qu'ils se glorifient dans votre chair. Mais se glorifier auprès de qui? Mais à nouveau, auprès de la communauté dont ils ne voulaient pas être séparés. C'est toujours le même dilemme. Ils ne voulaient pas être exclus de la synagogue. Regardons dans les épîtres des Actes, dans les, le livre des Actes, à chaque fois que Paul allait dans une ville, il commençait par quoi? Où est-ce qu'il allait en premier? Dans la synagogue. Parce qu'il disait les Juifs d'abord, les Grecs ensuite. Donc je dois d'abord annoncer. Et une fois qu'il avait annoncé le message, en général, c'était le bazar dans la synagogue. Il créait la division. Parce qu'il y a ceux qui recevaient le message et il y a ceux qui le refusaient. Et qu'est-ce qu'il faisait ensuite? La première chose qu'il faisait, il séparait ceux d'entre les Juifs qui avaient reçu le message et il les sortait de la synagogue. Et ensuite, il annonçait l'évangile aux Grecs et il agrégeait ceux qui recevaient la foi parmi les Grecs autour du noyau juif qui avait également reçu la foi. C'est comme ça qu'il procédait. Donc, recevoir le message de Jésus, c'était être exclu de la synagogue. Et les judaïsants, eux, un pied dedans, un pied dehors, dans le compromis. Et c'est pour ça qu'ils se glorifiaient, ils cherchaient, ces judaïsants, à se glorifier dans la chair des Galates pour pouvoir dire ensuite, nous avons fait des prosélytes. En fait, c'est pour eux qu'ils travaillaient. C'est pas pour la gloire de Dieu. C'est même pas pour l'évangile. C'était pour eux. Donc, ils voulaient se vanter des conversions qu'ils auraient faites s'ils avaient réussi à faire circoncire les Galates. Donc, vous voyez que la motivation, c'est une motivation de peur de rejet, peur d'exclusion. Et donc, c'est ce que Paul va dire juste après, peur de porter vraiment le prix de la croix. C'est ce qu'il dit justement après, au verset 14. « Pour moi, il n'y a pas sujet à me glorifier, sinon de la croix de notre maître Jésus le Messie. » Et là, il dit pourquoi ? « Parce que le monde, par qui le monde est crucifié pour moi, y compris donc le monde religieux, et moi, je suis crucifié pour le monde. » Donc il y a bien à un moment donné une séparation. Vous voyez? Et ça, on le voit combien de fois, dans, comme je l'ai dit dans le livre des Actes, le nombre de fois qu'il a souffert, le nombre de fois qu'il a été persécuté. Alors, je ne voulais pas tous les passages, mais retenez dans Actes 9, Actes 13, 14, 16, 17, 18, 21, dans ces différents chapitres, nous avons à chaque fois des épisodes de ce qu'a représenté pour Paul le fait de devoir porter sa croix. Dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 27, il fait une longue liste de tout ce qu'il a dû supporter à cause de la croix. Des coups, des naufrages, des dangers constants. Donc le monde est crucifié pour Paul, et Paul était crucifié pour le monde. Comme il le dira dans 1 Corinthiens 1, la croix est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Donc il ne peut pas... D'un côté, c'est une folie, donc il est exclu. De l'autre côté, c'est un scandale, il est exclu. Donc, exclusion dans les deux pôles représentant le monde de l'époque, le monde juif, le monde des Grecs, le monde des nations, exclu de l'un, exclu de l'autre. Les païens, les nations, les Grecs considéraient que l'évangile était une folie et le monde juif considérait que la croix était un scandale. Donc on voit que Paul vivait dans cette rupture avec les valeurs du monde, et donc c'est important d'être confronté régulièrement à la parole de Dieu pour pouvoir discerner justement ce qu'il y a encore de mondain quelque part dans notre vie, nos manières de penser, nos manières de faire, et toujours être dans cette œuvre-là de nettoyage, de lavement de nos pensées, de notre intelligence, de telle manière à ce que nous soyons toujours plus rendus conformes à l'image que nous donne le Seigneur. Et on voit que Jésus, dans les évangiles, il ne se souciait absolument pas du pouvoir romain, alors qu'on cherchait certains à l'instrumentaliser. Hein, tu vas devenir le Messie qui va prendre les armes et mettre les Romains hors de Judée. C'est pour ça qu'une partie des Juifs n'a pas reconnu Jésus. Ils attendaient un Messie guerrier et ils ont eu un Messie serviteur. Vous voyez ? Donc on peut avoir des conceptions de Jésus qui vont vraiment à l'encontre de qui il est véritablement. Et c'est pour ça qu'il faut cette rupture avec les valeurs du monde et trouver vraiment notre nouvelle identité en Jésus. Alors, c'est une expression habituellement que je n'aime pas, parce que j'entends aussi certains clamer leur identité en Christ. Et par là, en fait, ils justifient le décalage qu'il y a en fait ce qu'ils pensent être devant Dieu, mais ce qu'ils sont dans la réalité. Voilà, c'est juste pour justifier ce décalage. Donc quand je parle de l'identité en Jésus, c'est vraiment Jésus qui devient un avec nous et qui nous façonne de l'intérieur pour que nous soyons le plus conformes à lui possible. Et ça, c'est un travail qui prend toute notre vie. Mais il faut entrer là-dedans. Donc c'est la fameuse union avec Jésus dont je vous parle souvent, qui était le cœur de la pensée de Calvin. Tout résulte de l'expérience de notre union avec Jésus. La vie chrétienne, il n'y a aucun autre secret. C'est pas une question de théologie, c'est pas une question de connaissance, c'est juste, ça tient, le secret de la vie chrétienne ne tient qu'à une seule chose, l'expérience de la communion avec Jésus. Donc c'est ça qu'on doit rechercher, la communion avec Jésus. Et devant Jésus, on se met à nu. Devant Jésus, on se livre. Devant Jésus, il nous montre sa gloire. Devant Jésus, il se révèle tel qu'il est. Et c'est la vue de Jésus qui nous nourrit. C'est la révélation de Jésus qui nous fortifie. Voilà, tout vient de là. Et en pratiquant cela, le Seigneur met tout le reste en place. Il n'y a pas besoin de chercher les dons. Cherchons Jésus, il va manifester ses dons. Etc., etc. Donc la vie chrétienne, elle est en fait, de ce point de vue-là, extrêmement simple. Et nous la compliquons énormément. Il faut que j'ai la bonne doctrine sur tous les sujets. Il faut que j'ai la bonne pratique sur tous les sujets. Est-ce que j'ai fait les choses proprement? Est-ce que je vais plaire à Dieu si je me comporte bien? Et on oublie qu'en faisant cela, on est en train de nous regarder nous-mêmes dans un miroir plutôt que de regarder Jésus. Hein? C'est subtil parce qu'on passe notre temps à nous regarder nous-mêmes en fait. Et les pharisiens faisaient tellement ça, ils voulaient donner une belle image à l'extérieur, mais à l'intérieur c'était la corruption. Donc faisons attention à ça. Il va continuer au verset 15 en disant « La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais la nouvelle création, c'est tout. » Alors là, on refait encore de la dialectique. J'aime bien la dialectique, on pose la thèse, l'antithèse, et ensuite on formule une troisième voie. Donc la thèse et l'antithèse, c'est dans le domaine naturel. Ben oui, on est circoncis ou on ne l'est pas. Ça, c'est dans la chair, c'est dans la matière, c'est dans ce monde naturel. Et la voie d'échappatoire dans le dilemme, est-ce qu'il faut être circoncis? Est-ce qu'il faut être incirconcis? Qui était le sujet, évidemment, qu'amenaient les judaïsants à Galate. La voie d'échappatoire, c'est quelle est la véritable circoncision? Celle qui compte devant Dieu? La circoncision du cœur. Voilà. Et donc là, on va parler de cette troisième voie en parlant d'être une nouvelle création. Et c'est dans Colossiens que Paul va parler de la circoncision qui est en Jésus, qui consiste en quoi? C'est quoi la circoncision de Jésus dans Colossiens? Alors le dépouillement du vieil homme, très précisément, mais ça revient au même. Le dépouillement du vieil homme, ça veut dire la confession de ce que nous sommes devant Dieu dans notre chair, ça s'appelle la repentance, et le revêtement de l'homme nouveau, et l'homme nouveau dans la parole, c'est toujours Jésus. Se revêtir de Jésus, comme il est dit dans Romains 13. L'homme nouveau, c'est Jésus. C'est pas nous, comme je l'ai dit, qui devenons des super apôtres, des super héros et qui parcourons le monde. Voilà. Non, c'est Jésus qui est l'homme nouveau. Et revêtir de l'homme nouveau, Jésus, c'est dépouiller du vieil homme qui est Adam, le premier Adam. Hein? Et cette idée-là de circoncision du cœur, de nouvelle création, moi ce qui me frappe c'est ça, c'est la nouvelle création. Dieu ne va pas bâtir à partir de notre chair. Il ne transforme pas notre chair, il crée quelque chose de nouveau par son esprit. Vous voyez? Et ça, c'était déjà annoncé dans l'Ancienne Alliance. Dans Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Et dans la Nouvelle Alliance, évidemment, on retrouve, alors je cite pas Jérémie 31, etc. Et dans la Nouvelle Alliance, on a souvent cette idée d'une nouvelle création ou d'une nouvelle créature. Par exemple, dans Romains 6, nous marchons en nouveauté de vie. Dans 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Vous voyez? Et la notion, évidemment, de circoncision du Messie, qui n'est pas une circoncision de la chair, comme le voulaient les judaïsants, on la retrouve également dans Deutéronome 10 ou Deutéronome 30, Jérémie 4. Circoncisez le prépuce de votre cœur. On voit bien que là, il n'est plus question de la circoncision physique, mais la circoncision du cœur. Deutéronome 30, pareil, Deutéronome 30, l'Éternel circoncira ton cœur. Et pareil dans Jérémie 4. Donc cette idée que la voie d'échappatoire, la voie spirituelle, c'est la circoncision du cœur et que la circoncision de la chair n'a plus aucune importance, la thèse et l'antithèse, circoncis, incirconcis. Donc Paul raisonnait de manière ternaire, de manière dialectique. Circoncision, incirconcision, ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est la circoncision du cœur. Et donc, par là, être une nouvelle création. Donc, je vois que l'heure avance, donc on va avancer aussi. Avec le verset 16, et là j'ai quelque chose aussi d'important à dire. Ceux qui approuvent cette voie, que la paix, dans la voie donc, que Paul vient d'exposer, cette troisième voie, c'est intéressant, hein, pour sortir du dilemme circoncis-incirconcis, que la paix et la compassion soient sur vous et sur l'Israël de Dieu. Qui est l'Israël de Dieu dans Galates 6, donc à la conclusion de l'épître aux Galates. L'Israël de Dieu n'est pas l'Israël ethnique. L'Israël de Dieu, je donne directement la réponse, parce que je vois que le temps passe. L'Israël de Dieu est composé de l'ensemble de ceux qui, parmi les Juifs d'un côté et parmi les nations de l'autre, ont le cœur circoncis. Paul dit dans Romains 2 que le véritable Juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, mais c'est celui qui est circoncis de cœur. C'est ça, le véritable Juif. Donc l'Israël de Dieu, elle a deux composantes. La composante juive, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui ont reconnu en Jésus leur Messie, on appelle ça en langage moderne les juifs messianiques, et de l'autre côté l'ensemble de ceux qui parmi les nations ont également véritablement reconnu en Jésus leur Messie. Et l'ensemble des deux, Éphésiens 2, sont unis en un seul corps par le Messie. Ça, c'est l'Israël de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il en est... Donc, je suis bien en train de dire qu'il n'y a qu'un seul peuple de Dieu, avec un P majuscule, et que ce peuple de Dieu a commencé quand? Pouvez-vous me donner le premier représentant que liste, allez, je vous aide, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, le premier représentant du grand peuple de Dieu avec un P majuscule? Quel est le premier héros de la foi qui est cité? Ce n'est pas Abraham. Plus haut encore, plus ancien encore qu'Enoch. C'est Abel. Le premier héros de la foi dans Hébreux chapitre 11, c'est Abel. Et vous voyez bien que là, il n'est pas question de Israël versus les nations, les circoncis versus les incirconcis. C'était bien avant le don de la loi. Mais pareil avec Abraham, c'était avant le don de la loi. Puisque c'est la loi qui va créer la séparation entre le monde israélite d'un côté et les nations de l'autre. Mais avant le don de la loi par Moïse, il n'y a pas de distinction entre Israël et les nations. Mais la circoncision va être donnée comme signe à Abraham, le signe de l'alliance avec Dieu. Mais à nouveau, c'était l'ombre qui annonçait la réalité, qui est la circoncision du cœur. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le peuple de Dieu, P majuscule, ou l'Israël de Dieu tel que je l'ai défini avant, avec un I majuscule, si je puis dire, c'est l'ensemble de ceux qui ont la foi en le Messie. Et ça a commencé bien avant la première alliance, bien avant la venue de Jésus, ça a commencé avec Abel. C'est le premier héros de la foi qui est mentionné. Hein, on aurait pu se dire, tiens, et Adam et Ève, ben, je n'en sais rien. La parole ne dit pas s'ils sont sauvés ou pas. Par contre, Abel, oui. Et il a montré sa foi en offrant les agneaux. Et en offrant les agneaux avec leur graisse, il était en train de confesser « Une vie pour ma vie, voilà ce que je mérite. Je mérite la mort. » C'est ça qu'il a confessé devant l'Éternel quand il a offert les agneaux. En fait, il a confessé sa propre culpabilité et par la foi, il avait déjà l'intuition qu'il ne pouvait être sauvé que par l'offrande d'un agneau. On ne sera pas étonné si Jésus est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Abel l'avait déjà compris. Abel l'avait déjà compris. Il n'était pas beaucoup à l'époque. Hein. Il y avait les deux parents et il y avait les deux frères. L'humanité a commencé avec quatre personnes. Et parmi les quatre, il y en avait un qui avait déjà compris. Et quel a été le prix de cette compréhension-là? Il a été tué par son propre frère. Donc, Dieu, j'insiste là-dessus, n'a qu'un seul peuple, qu'on appelle peuple de Dieu, Israël de Dieu, Église de Dieu. Voilà, quelle que soit la manière dont on l'appelle, ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu n'a qu'un seul peuple et pas deux. Or, beaucoup aujourd'hui enseignent que Dieu aurait deux peuples. Un peuple selon la chair et un peuple selon l'esprit. L'Israël selon la chair et l'Israël selon l'esprit. Mais attendez, si c'était vraiment le cas que Dieu ait deux peuples, ça voudrait dire en fait que l'ancienne alliance a encore cours, puisqu'on ne peut pas séparer Israël selon la chair de la première alliance mosaïque. Mais là, il y a une profonde contradiction. Premièrement, je rappelle quand même que Dieu, en faisant détruire le temple par les Romains en l'an 70 de notre ère, a ôté tout moyen d'accomplir la loi mosaïque, puisque la loi mosaïque, c'est l'épître aux Hébreux qui nous le dit, repose sur le sacerdoce lévitique. Or, ce sacerdoce lévitique a été remplacé par le sacerdoce de Melchisédek, avec un seul représentant et un seul souverain sacrificateur, Jésus. Il y a eu changement de loi, changement de sacrificature, changement de sacrificateur, changement d'offrande. On a changé d'alliance. Hébreux, au chapitre 8, nous dit que la première alliance s'est terminée. On ne peut plus se réclamer de la première alliance. Et Paul dira par ailleurs dans le Corinthiens que pour ce qui est des promesses de la parole de Dieu, le oui et l'amen sont maintenant en Jésus. Il n'y a plus rien en dehors de Jésus qui accomplit toutes les promesses et toutes les figures de l'ancienne alliance. Tout maintenant est centré sur lui. Donc Dieu n'a pas deux peuples, il n'en a qu'un seul. Par contre, c'est important de le dire, l'Église n'a pas remplacé Israël. Il y a en fait continuité entre l'Israël de la première alliance et l'Église de la nouvelle alliance. C'est juste un changement de nom. Puisque il y avait déjà des croyants avant la première alliance, Abel, Abraham, etc. Il y avait des croyants, épître aux Hébreux chapitre 11, sous la première alliance, Moïse, Josué, David, tous ces gens-là avaient la foi. Et ensuite, quand on voit les évangiles, il y avait encore un noyau de croyants en Judée, Marie, Joseph, Élisabeth, Zacharie, Siméon, Anne, les bergers qui vont entendre la bonne nouvelle. Et c'est exactement le même schéma que quand Paul aborde une synagogue. Il y a ceux qui vont recevoir l'évangile, puis le message va aller aux nations et va s'agréger autour. Et ça va former le fameux olivier que l'on voit dans chapitre 11 de l'épître aux Romains. Un seul tronc qui est le Messie, par qui coule, comme il est dit littéralement dans le grec, l'huile, c'est-à-dire l'onction. Je rappelle que Messie veut dire celui qui est oint. Et ensuite, les deux types de branches, de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. Les juifs qui ont la foi, les nations, ceux des nations qui ont la foi. Vous voyez? Il y a un seul peuple avec deux composantes. Et donc ça forme une unité. Donc l'Église n'a pas remplacé Israël. L'Église est la prolongation organique d'Israël. Donc dire Israël de Dieu et Église de Dieu, c'est en fait la même expression. Ouais. Souvent, quand on fait ces distinctions-là, on peut nous accuser, oui, l'Église, vous dites que l'Église a remplacé Israël, théologie du remplacement, mais pas du tout. En fait, il n'y a qu'un seul peuple. Donc il n'y a pas de remplacement, c'est juste un changement de nom. Et pourquoi le changement de nom? Parce que sous l'ancienne alliance, l'Église était majoritairement, évidemment, israélite. Alors que sous la nouvelle alliance, l'Église est majoritairement, je pense au niveau quantitatif, c'est majoritairement constitué de chrétiens d'entre les nations. Mais il y a toujours ces deux témoins-là. Vous voyez? Ils ne se confondent pas. Il y a la composante juive dans l'Église et il y a la composante des nations dans l'Église qui forment les deux témoins sur lesquels le nouvel évangile s'appuie. Puisque selon la loi, tout doit être proclamé, défendu, selon deux ou trois témoins. Et là, nous avons les deux témoins, les deux composantes de l'Église de Dieu, qu'on peut appeler les deux composantes de l'Israël de Dieu, voyez, mais qui ne forment qu'un seul peuple, une seule Israël. Et donc, en fait, ceux qui nous accusent de théologie du remplacement sont en fait eux qui pratiquent la théologie du remplacement, puisque pour certains d'entre eux, en tout cas, disent qu'elle viendra le moment où l'Église sera enlevée et où l'Israël, selon la chair, reprendra et accomplira les plans de Dieu. Mais attendez, c'est qui a remplacé qui, là? C'est l'Israël, selon la chair, qui remplacerait l'Église, puisque l'Église est censée être enlevée, et ensuite, Israël charnel accomplirait les plans de Dieu. Donc vous voyez souvent que quand on accuse les autres de quelque chose, en fait, c'est très souvent la chose dont on est coupable soi-même. Donc je reprécise bien pour que ça soit clair, Dieu n'a qu'un seul peuple, avec deux composantes, mais un seul peuple, les deux composantes, les deux témoins. Dieu n'a pas deux peuples, puisque dire que Dieu aurait deux peuples, ça revient à dire que la première alliance a encore cours. Or, la première alliance, Hébreux chapitre 8, c'est terminé. Elle a été, elle, remplacée par la nouvelle alliance. La sacrificature de Lévi a été remplacée par celle de Jésus, de Melchisédek. Et enfin, l'Église n'a pas remplacé Israël, puisque comme je l'ai dit, il n'y a qu'un seul peuple. C'est l'Israël de Dieu, l'Église de Dieu, le peuple de Dieu. Donc là, ça pose une question également, et je vais conclure avec ça, je vais faire le parallèle avec les judaïsants dont on a parlé dans l'Épître aux Galates. Ces judaïsants voulaient être dans une forme de compromis entre le monde grec d'un côté et le monde juif de l'autre, et en forçant la circoncision des Grecs qui venaient à la foi, de telle manière à avoir les faveurs du monde juif qui rejetait Jésus. Ils étaient dans un entre-deux. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ceux qui disent qu'il n'y a deux peuples et non pas un seul? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une volonté quelque part de compromis entre le monde juif d'un côté et le monde chrétien de l'autre? Vous voyez? On veut s'accommoder les uns, on veut s'accommoder les autres. Donc on va dire qu'il y a deux peuples, chacun avec sa destinée. L'un une destinée terrestre, l'autre une destinée céleste. Et on commence à entrer dans des raisonnements qui vont à l'encontre directe de la parole de Dieu. Donc je trouve qu'il y a un fort parallèle dans ce qui se passait dans l'Épître aux Galates et ce qui se passe actuellement dans bien des églises. Et donc Paul met vraiment un terme à cela dans l'Épître aux Romains au chapitre 9. Je vous rappelle ces versets qui sont quand même fondamentaux. Alors qu'est-ce qu'il dit dans le chapitre 9 ? Alors tous ceux qui viennent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Tous ceux qui descendent génétiquement d'Israël Jacob ne sont pas l'Israël de Dieu, et bien qu'ils soient génétiquement la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants par l'Esprit. À la fin de Galates 3, justement, Paul va dire aux Galates, vous croyez que Jésus est le Messie, vous êtes donc la postérité d'Abraham, enfant d'Abraham par la foi. Et pour ceux qui veulent le relire, Jésus a exactement eu le même dilemme. Vous relirez le dialogue, je ne vais pas le lire par manque de temps, entre Jésus et les religieux dans Jean au chapitre 8. Vous dites que votre père est Abraham, mais si votre père était Abraham, vous accompliriez les œuvres d'Abraham. Vous dites que Dieu est votre père, si Dieu était vraiment votre père, vous m'aimeriez. Et vous connaissez la conclusion de Jésus face à ces religieux. C'est exactement la même idée. Donc là, je suis un petit peu anabaptiste. Les anabaptistes, quand ils découvrent quelque chose dans les épîtres, ils aiment bien trouver le parallèle dans les évangiles. Et là, le parallèle est lié de manière évidente. Et c'est la même chose avec le message de Jean-Baptiste. Hein, quand les religieux venaient pour observer ce qu'il est en train de faire, parce qu'ils étaient jaloux de Jean-Baptiste, qui faisait beaucoup de baptêmes, et Jean-Baptiste, alors par contre, il refusait d'être baptisé par Jean-Baptiste. Parce que être baptisé par Jean-Baptiste, c'était confesser, je suis pécheur, j'ai besoin du baptême. Et les pharisiens, les religieux, ne voulaient surtout pas témoigner devant la foule qu'ils étaient des pécheurs comme les autres. Et du coup, que va dire Jean-Baptiste ? Race de vipère. De ces pierres-là, Dieu est capable de faire des enfants à Abraham. Des fils d'Abraham. Toujours la même idée. Vous n'êtes pas de la postérité spirituelle d'Abraham. Dieu peut transformer ces pierres-là pour en faire des fils et des filles d'Abraham. Toujours la même idée. Voilà. Et il termine donc son message, que la grâce de notre maître Jésus le Messie soit avec votre esprit. Donc là, je commente juste, évidemment, il rappelle à nouveau la grâce. Le salut est par la grâce et non pas par les œuvres. Et il souligne par là la dérision, en fait, du message de ces judaïsants qui n'avaient rien d'autre à offrir que des rites, la circoncision, et des pratiques, la loi mosaïque, et ne pouvaient pas annoncer le message de la grâce, puisque manifestement, eux-mêmes ne l'avaient pas compris. Donc Paul conclut en disant, c'est la grâce de notre maître Jésus le Messie qui doit être avec notre esprit. Et je conclus avec lui. Amen. Amen.